What's up, everybody? Welcome to the MMA Talk Show. We are back this week with another great episode for you guys, and I'm pretty happy about the interviews that I realized for this show. We are speaking with two Québécois this week, Nicolas Ouellet and Maxime Soucy. Both guys have been fighting for BFL recently. Nicolas Ouellet is a Québécois, born here, but moved very early in his life to Powell River and to Vancouver, the Vancouver area, let's say like that, even though it's not that close. I think he told me it's two ferries away from Vancouver, so not that close, but to Western Canada, to British Columbia. And he's been back there doing jiu-jitsu, absolutely killing it, and he's made his pro debut in 2021, and he's been one of the revelation of the years, one of my rookie, if not the rookie of the year in 2021, Nicolas Ouellet. And then we are speaking with my man Maxime Soucy in a French interview where we discuss his recent return to competition, where he fought Makinde Adeyemi at BFL, and it was a really good fight for him. Was able to respect the game plan and come away with a great decision win there after more than 3 years on the shelf. And the guy is studying, he's studying finance at the university, and he's fighting mid exam session. So pretty crazy stuff from Maxime Soucy. Good stuff in French from him. For Nicolas Ouellet, it's in English. I didn't precise it, but it's in English. So before we get there, obviously, you know that we want to talk about our Canadians and how they did, because there's Canadian fighters fighting every week now. It's amazing to see. It's been a rough year and a half, 2 years, but now it's really back on, even though we see the cases and COVID go up and down and new variants and all that stuff. The MMA world is really back in full force, and it's easier for Canadians to travel to the United States and get some fights, and there's good fights every week. So there were three Canadian fighters in action once again. First one is Jillian Robertson, who had a much needed win at UFC 269 against Priscilla Cachoeira. And I was confident in that matchup, but I also saw it as kind of a trap, because sometimes Jillian is not super comfortable on the feet, and Priscilla Cachoeira basically can't defend the takedown to save her life. We've seen that in her UFC career until now. But she's still a sneaky, tough fighter who can endure some really bad moments on the ground and survive and come in later on to the fight and get a finish or get something going for herself. And so I thought it was a good matchup for Jillian, for sure, because you know Jillian is good with the takedowns and she's good on top with her grappling and her submission game, and her ground and pound even getting better now. And she tried really early in the fight to take it down. It wasn't going the way she really wanted it. She got stuck on the feet for, let's say, a good 2 minutes, 3 minutes even of the first round. But when she was able to secure a takedown, it wasn't long until she baited a Kimura, passed to the full mount, was trying the armbar, was landing elbows from the top. Eventually, Priscilla had to give her back. And Jillian, you know, when she's on your back, you're not going to do pretty well for yourself. And she choked her out. And yes, of course, there's the, I won't say the controversy, but the kind of disgusting act by Priscilla Cachoeira, who basically tried to defend the rear naked choke from Jillian Robertson by gouging her eyes. She was, you can really see on the replay that she was looking with her thumb for her eye, and when she found it, she just stuck her thumb inside Jillian's eye. Jillian was still able to tough through and get the finish with 1 second left in the first round. That's really cool for her. I'm glad too that there's not like significant damage done to her eye after that. Like, fortunately enough, she had her eyes closed, and she was like midway through squeezing through her choke, so she was able to tough it through. But like, to be honest, like, there's some different levels of fouling in MMA. You know, like, we're talking a little bit about the Charles Oliveira glove grabs in the second round of the Dustin Poirier fight and how that affected the round. And yeah, that's a foul. Same thing as a cage grab, stuff like that. That's foul. But, like, even the eye pokes, the knee, the groin shots, I feel like it's a worse foul than the glove grabs and all that shit, but still most of the time it's inadvertent. It's not something that the guys are doing like to hurt their opponent. It's just sometimes fingers are sticking up or like crazy stuff happens in MMA. So you get these eye pokes, you get these groin strikes, but still it's not something that is done purposefully to hurt their opponent. That was the case of something absolute that was purposeful. She was getting choked out. She wasn't going to find a way out of that choke. So she tried to gouge Jillian's eye in order to escape that choke. And that's super illegal. That's super dangerous. That's mean. And that's not in the spirit of the sport. Like, it's a bad enough sport in the sense that you're getting elbowed in the face. People are bleeding everywhere. Like, you're really trying to hurt your opponent, but not in the, I don't really know how to say it, but not, you know, it's just really mean to do this. It's just really like in bad faith, and you don't want stuff to happen in bad faith in a sport where there's already bad stuff happening to people. You don't want people trying to start to eye gouge their opponents. So absolutely disgusting by Priscilla. If she gets cut, I'm really happy, because I think there's a limit, the clear limit of like you can't really go past this, and she went way past it. So if she gets her ass cut, I would not be really mad about it. But still, amazing win for Jillian. She really needed it. She's back in the winner's column. She's back in the conversation in the division she used to be ranked. She isn't really anymore, but she's hovering close to the top 20-25 of that division, and it's cool to see her back on her winning way. So congratulations to Jillian. Then at LFA, two Canadians in action, two amazing performances. Tony Laramie's performance was the best one of the two. I won't lie. It's one of the better performances of the year. And I feel like every time Tony fights, he kind of amazes us. And like, we shouldn't be amazed by him anymore because we know how good he is. But still, every time he comes out, he looks even better. And that's super fucking scary because the guy is 22 years old. That's absolutely insane. And he was fighting Tyus White at LFA. He did amazing. He was powerful. He was fast. His 1-2 was absolutely amazing. He was using the straight right to set up the 1-2s. And like, his efficiency in that fight, I would love to know the percentage of strikes that he was able to land on Tyus White, because it's a really high percentage. He was able to shut down the takedowns attempts mostly from his opponent and like really stalk him down and put a beating on him, but like technically do it too, because you know it wasn't the typical like, oh, I'm stalking you and I'm basically running after you. It was always using lateral movements, using angles while going forward, while being the guy that was putting the pressure on his opponent. He was moving like side to side to set up his punches, set up his angles, set up his attacks, and like, it was really technically advanced. It was really beautiful. And he absolutely put a beating on his opponent, winning the first round quite easily. Second round, if it wasn't for the late takedown by Tyus White, who basically did nothing with that takedown, but still, it was the only meaningful thing he did in that round. And if it wasn't for it, he would have lost a 10-8 in that round, quite clearly. The third round was the best round for Tyus White, by far. I still feel like it's a clear Tony Laramie round, but he was still able to land here some good punches here and there, land a couple of really good body kicks. So better third round for White, who was 4-0 and undefeated going into that fight, but he really got his ass handed to him by Tony Laramie, who just pulled out one of the best performances of the year. So major props. I feel like if you're looking at guys that could make the big jump in 2021, I feel like Tony, he's 6-2 now. Anytime he comes out, he shows us that he's getting better and getting better. And the guy is already pretty good. He was already pretty good when he began his pro career at 18 years old. So crazy stuff from Tony. One of the best performances of the year, like I said. So big shout out to him. And then Jamie Lynn Ort, Mayra Cantuaria. Jamie Lynn Ort is your new women's flyweight champion in LFA. A belt that has been won by Andrea Lee and Sabina Mazo. So basically, everybody that has won a belt, a feminine belt, a woman's belt in LFA, has made it to the UFC, and Jamie Lynn is the new champion, the next one to do it. And what a great performance too there. She fought an opponent that was really game. I mean, maybe even too game for her, because, you know, Jamie Lynn's a really intelligent fighter, is a really relaxed fighter who always comes in with a really good and strategic game plan. And I feel like for her in that fight, it was really all the way in or all the way out. She was at range kicking and throwing long strikes to try to keep her opponent at bay, because clearly Cant Warrior wanted to come into the pocket and try to throw some combinations and turn the fight into an ugly fight, a brawl more than a technical matchup. And when Jamie Lynn wasn't at range, she was in the clinch, absolutely smothering her opponent and taking her down. But to be honest, she took her down. She had lots of top control in that fight, but almost every time the grappling was initiated by Cant Warrior. In the first round, she rolled for a knee bar. She was kind of close, but Jamie Lynn was able to stay like very calm, very composed, and then was able to take top position from there. Second round, same thing. Yeah, a mistake down from Cant Warrior, and Jamie Lynn just takes top from there and absolutely dominates her in the second round. And you can really see at that point, like, the will kind of fall off from Cant Warrior. At a point, they spent a big 30 seconds where Jamie Lynn was up and she was kind of kicking the legs. And, you know, the Cant Warrior was standing on her back and kind of waiting, kind of not doing anything to create some distance to rise back up. So she was the one looking for the takedowns, looking for the grappling. And by doing that, she got broken. She got broken and she didn't even want to rise up anymore at the end of the second round. And Jamie Lynn was able to really dominate that round, come into the third round and do more of the same. And when she was able to secure the back, a good body triangle, staying sunk in a rear naked choke, and really made it look easy against a good opponent who was like 9-3 or something like that. So 12 pro fights, Jamie Lynn was like 4-0. She came in, absolutely dominated her from start to finish. So, like, really amazing performances from the Canadian fighters this weekend. And we're really looking forward to next weekend with Unified and Tarpsoff Fighting Championship, the two final MMA cards of 2021 in Canada. It's going to be an amazing time. And that's about it. Let's go to the interviews. Let's speak to Nicolas and Max. What's up, everybody? We're back, and I'm with somebody who I've got a lot of questions for. Nicolas Ouellette, what's up, man?
How's it going, man?
First off, first question, do you speak French?
Oui, monsieur.
Why? Do you know that you've got the most Quebecois name ever?
Je suis Québécois, man.
Ah ouais, tu viens d'où?
Trois-Rivières.
Ah, oh, sacrament, Trois-Rivières. And how did you end up back there?
Well, I was born in Trois-Rivières, Quebec, and my family moved when I was 5 years old. And we ended up in Vancouver for a little bit, and then we found Powell River shortly after. So that's where my roots.
Yeah, for sure, because I seen you like on your Instagram too, and your brother's name Raphael or something like that.
Yeah, Raphael Ouellette.
Yeah, so I was like, oh man, how do these guys are back there with the most Quebecois name ever? But I'm glad to know that you're one of ours, my man, because holy shit, I didn't know you before this year, but I'm pretty sure fucking know you now, my man. And I gotta say, before we begin, you're one of my favorite prospects out there. I do jiu-jitsu. I'm a jiu-jitsu nerd. I love that shit. And man, the way you just go out there and do some amazing stuff on the ground, and your striking is very impressive too. So that's why I was saying I got so many questions for you. Like, when did you start fighting?
My first amateur fight was in 2019, but I've been training and fighting with my little brother, and my dad taught us. Jean-Marc Ouellette is my dad, so another Quebecois.
For sure, man. Yeah. So 2019, holy shit,
first amateur fight. Yeah,
damn, man, it's been a fast rise, because holy shit, man, I'm surprised about that. Did you get the chance to fight amateur for BFL too?
Yeah, I had two BFL amateur fights, and then COVID happened, so I figured jumping pro would be the best option. And I did a whole bunch of jiu-jitsu tournaments, right? I started doing jiu-jitsu in 2012, so I've been competing my whole life almost. I started as a preteen. Yeah.
For sure, my man, for sure. And how would you assess your first year as a pro? Because, like, as an outsider, I think you did amazing, to be quite honest. It's a really good start to your pro career. But I wanted to know from your perspective, how do you, like, analyze your first year as a pro in MMA?
Oh, I'm very happy with it. I went according to plan, except one fight fell through. So I was supposed to fight three that year, ideally. But it is what it is. Sometimes fights fall through. So, no, the fights themselves were perfect, in my opinion. That's how you want to do it, right? Get in, get out. Take not a lot of damage and just get on to the next one, right? So I'm going to stay as active as possible this upcoming year.
For sure, my man. Because, like, your first fight, Kevin, was really good. Like, really one of the better submissions this year. It was really, like, beautiful to see the execution and stuff. But I was so impressed by your last performance. Because, like, Mike McCallum is, like, basically not a guy that gets submitted in the first round like that. He's usually the, like, the tough fighter who's a better grappler than his opponent that ends up, like, in the second or third round taking over with his grappling. And the way that you just, man, just took him down and finished him instantly was, like, really one of the most impressive performances of the year, in my opinion.
Thank you so much, man. That means a lot. On to the next one, man. I'm getting started, so stay tuned.
Yep. Do you got any, like, plans, IDs, names that you want to see next?
Yeah, I'm scheduled for another BFL fight. It's supposed to be for the title. I'm not sure if I'm allowed to say who it is yet, but just keep in touch with the BFL page, and you'll find out soon enough who it's going to be.
It's going to be at 45?
Yes, sir.
Like, who's the champ at 45? Is there a champ at 45 or it's a vacant?
Yeah, it's vacant. It's vacant right now. And yeah, big time on the next one.
Like, for sure, man. I'm not
really have to say because I haven't really talked about that kind of stuff yet with him. So I just don't want to break any rules here. So I won't say who it is. But yeah, my next one's coming up soon.
For sure. I don't have the ranking in front of me or nothing, but I'm sure we can figure this out pretty easily if we take time to. But man, so that's an amazing opportunity, fighting for the belt and stuff. Third pro fight. Does anything change in your training now that you can possibly go five rounds, or you just plan on getting the early finish once again?
The only thing would be just more rounds, maybe, right? So for the training camp, preparing for five rounds is definitely a little bit different. But I'm always prepared to go the distance and a dogfight, right? So the idea is always to finish it quick, but I'm always going to be ready just in case, right? So nothing's really going to change. I'm going to train hard with my brother in Victoria and the group he's got down there. I'm going to keep doing my thing here in Powell River and try to bring a couple guys in. And yeah, man.
Where? Okay, I'm looking at the map at the same time. I'm trying to see where is Powell River exactly. are you guys good right now? Like, with the floodings and shit, are you guys good?
Yeah, we're okay in Powell River. It's nice. We're right on the Sunshine Coast. So yeah, you got to take a ferry from Vancouver to Seychelles or Gibson's and then take a ferry from there to Powell River. So it's two ferries away from Vancouver. And like a 2-hour drive.
Oh, cool. And let's talk about your gym too. You're the owner of a gym, Powell River Jiu-Jitsu. How did this start exactly?
Well, I became a student first, right? So I started in 2012. Yeah. And started training all the time. I fell in love with it right away because I did karate prior and always loved martial arts. And I figured that Jiu-Jitsu was amazing because I kept getting my butt kicked and everyone was beating my ass and they were smaller than me. And I thought jiu-jitsu was the best martial art in the world, right? So Yeah, sorry. What was the question again? I'm sorry, I got sidetracked.
Yeah, don't worry. I was just wondering when did you start your gym? How did this all begin?
Right. So that's where I was going with this. So I got a lot of interest early, and I had a natural talent for it. So as I was competing, I was doing tournaments and stuff like that. And once I became a blue belt, I started helping teaching the kids class with my coach Andrew Thistle. He's still my coach today, and he's in my corner every fight. And I just started teaching with him a lot, also to help pay dues and things like that. But I wanted to help in every way possible, filling in for classes if he couldn't make it. Me and my brother Raf were doing a lot of the classes. After a little while, once we were a purple belt, brown belt, we were running a lot of the classes. And then Andrew, my coach, he got an opportunity in Penticton for PTT to teach full time. So he decided to move away with his family and decided to leave me and my brother. So we just took it on from there. Started growing it and just sharing the love, right? Sharing the jiu-jitsu as much as possible, and it's still growing today, so it's been going well.
Man, that's amazing. That's really cool.
Thank you, man. Yeah, we took E17. So in 2017, that's when Drew moved away, and it all began with the business side of things.
Yep, and then you go, when did you get your black belt?
I got it last year in February, so it's been a year almost.
Yeah, so too that cool, and man, that's really cool. That's really cool. I've been trying to help with the kids' classes too at my gym, but man, like it's so tough because I'm so stupid. Like to be honest, I'm just dumb, and I just always say stupid stuff, and the kids get fucking crazy. And then it's time to tell them, okay, now let's calm down and do some techniques. And they're like, hey, fuck you, man. You're like, you're the stupidest, right? You're the stupidest guy here. Why would I listen to you? And like, I always end up like distracting everybody, and nobody's listening to the class anymore, and that's all because of me. So I'm better with the adults classes if I can, to be quite honest. But yeah, man, I really love it the way that it all played out. Because man, like me too, as soon as I could like help my teacher with classes and stuff, it's really like the part of jiu-jitsu that I prefer, to be honest. Like I love to compete, it's cool and stuff, but sometimes I like once you get there and you're going on the mat, it's cool once you started, but before you start, it's always super shitty. You're like, oh no, why the fuck am I doing this? I'm kind of nervous for no reason because I won't get hurt. I do jiu-jitsu every day, so why would I stress? But like it's stressful and stuff, but the teaching aspect of things is really the thing I prefer, I think, to be quite honest.
Yeah, and just to correct myself, I got my black belt in 2020. Not 2019. I don't know why, but I got it last year, 2020. And yeah, like you said, the teaching actually, in my opinion, teaching class helps me in my progress as well, because I have to go over every little detail to explain it to somebody who has no idea, right? So in my head, I have to really section it the way I'm supposed to, and fundamentals and all that stuff, just going over and over again, even with the kids' classes, right? It's always fundamentals. So I just have to stay sharp with the foundation. And I love building students up as well. So I love seeing students succeed, and I love seeing their progress. And all of a sudden, sometimes the students are giving you a hard time with some moves that you've taught them, and it's a great feeling. So I love it, man.
Yeah, for sure. Like one thing that I really really love is sometimes, let's say I show a technique like, and I do it like step by step, and now guys they go on and they drill it, and like sometimes there's like one common mistake that everybody is doing, and it just makes you realize. Sometimes I was like, oh yeah, so I'm doing this, and that's why this is not happening. And sometimes you just don't really think about it; you just do the move. And when you try to teach it to people, you see the place where they struggle, and that makes your move better, because they okay, people struggle there, so you're more conscious of like basically what you're doing in that exact moment. And yeah, like you said, like competing is cool, but to be honest, what I prefer is always when we got the white belts that are at their like first or second tournaments, and you know, because they're rolling with us at the gym and they get their shit you get their shit wrecked every day, and sometimes it's tough for them because we tell them, "Ah, you're absolutely ready to compete, man," but he doesn't really know it because he's always getting his ass kicked in the gym. And like the way that these people, when they get to the tournament, often they win, and like they're super happy, and like they get so motivated to do more jiu-jitsu, and like that's how basically you hook them up, man, and you make sure that they can't get enough of it. And that's one of my favorite moments, to be honest. I love, let's say I do a tournament and I win, like, it's cool, I'm proud of myself, but never prouder than when I see people that like I help in the gym and they do good.
Yeah, I totally agree, man. It's awesome. It's a great feeling. And I love seeing people fall in love with jiu-jitsu too. You can just see it in their eyes sometimes. They just ask questions. And that's another thing that I always tell my students, there's no stupid questions. Like, just ask as many questions as you possibly can, because it also helps me. Sometimes they ask a good question and I'm like, oh, what is the answer to that? And I have to do it and I figure it out with them. That's when the real learning happens, right? Like, for me anyways, because I have to really go over it. And yeah, nothing better than being a coach, man. But I'm always a student too, so I'm always learning.
Yeah, no, for sure. That's the most important. Even my coach's coach, everybody's still a student. It's crazy, yeah, man. Like, because my gym, we're affiliated with Nova União. So basically, before the pandemic, right, like once a year, we either add like the big Nova União bus, Wendell Alexander, or someone that's like within the top black belts, or let's say like Leo Santos, Wagner Fabiano, yeah, or Thales Leites, and they all come and do a seminar. And like, man, when you look at these people, like the big boss, first he comes out with his like his coral belt and stuff, so you're like, holy shit. And right, the guy, man, he's just like an encyclopedia of moves, man. You ask him one question, he doesn't even understand you because he's Brazilian. And like, he doesn't speak French, he doesn't speak English, he only speaks jiu-jitsu. But you ask him a question, he's like, oh, okay, and he shows you like 25 moves, and you're like, holy shit.
All the options, the rabbit holes, they never end.
Yeah, man, it's crazy. I love it so much, man. It really fucking changed everything for me. Like, I always loved MMA. I always knew I wanted to be like, I'll cover MMA and that. But when I really started training and doing jiu-jitsu, man, it like opened everything up, man. To be honest, it's
man. Me too. Hey, I'm just gonna go and plug my phone in, it's dying here.
Yeah, no, for sure. But anyway, man, I think I'm going to let you go. I don't got much else for you. I'm going to leave you with the final word, though. Like, anything you want to say, any people you want to shout out, anything you want to plug, floor is yours, my man.
Yeah. Thank you, everybody, for the support. All of Powell River, my team, Powell River Jiu-Jitsu, everybody involved in the gym, helping the gym thrive. And Nelson Sprue, always my number one training partner, the scrappy southpaw. My brother Raph, always coming to visit me. My girlfriend Deidre, helping me with the emotional support and the meal planning and just everything behind the scenes. She's my everything. And my coach Andrew Thistle, who's always in my corner and always gonna be, you know. So thank you everyone for the support. Thank you for having me on. And stay tuned, because coming next year, I'm taking over.
Yeah, for sure, man. And anytime you got something to say, you always got a place on the podcast, man. My fellow Quebecois, man. Anytime.
Okay, merci beaucoup, man. OC, check out my brother Raph. He's going to be coming out and fighting and taking over with me next year. So, my brother Raph.
Can't wait. Merci beaucoup, mon gars. À la prochaine.
Yeah, bye.
What's up, guys? On est là avec notre boy Maxime Soucy, big winner récemment au BFL 70. Comment ça va, mon boy?
Ça va super bien. Merci. Puis toi?
Ça va, mon gars. Je suis content de te recevoir sur le podcast, finalement, man. Ça fait un bout que je voulais te parler. Il n'y avait pas grand-chose à se dire, honnêtement.
Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça fait une couple de fois qu'on se parle et tout ça, mais on est comme... Ben, il se passe rien, mais en même temps, ça a tellement été statu quo au Québec pendant un bout que c'est genre...
En effet. Mais là, on a de quoi à se parler. Puis de quoi d'excitant, man, parce que t'as fait ton retour. T'as un changement d'adversaire de dernière minute. Tu t'en es colissé bien raide. Tu y as pété à gueule, même s'il était gigantesque. Fait que je voulais savoir, avant qu'on rentre dans les détails là, de la patente, comment tu te sens une semaine pile. Sacrément, on est vendredi. Ah, une semaine pile de ton retour dans la cage.
Honnêtement, je me sens vraiment bien. T'sais, comme j'ai retourné rouler cette semaine, j'ai recommencé de l'entraînement reparti comme si de rien n'était. J'étais allé rouler justement aujourd'hui et tout ça. Je me sens super bien. J'ai pas de blessure, j'ai pas pris de dommages, rien. J'ai vraiment comme j'ai fait ce que j'avais à faire in and out. Puis tu sais, comme c'était drôle parce que comme je disais, je peux pas me permettre de prendre du dommage. Je suis dans un fin de session à l'université, j'ai pas le temps de me prendre une commotion. Là. Fait que je rentre là, je fais ce que j'ai à faire, puis je retourne à la maison étudier pour mes examens. Là. C'était vraiment ça le game plan. Fait que c'est exactement ça qui est arrivé. T'sais, j'ai mal un peu au poignet, je te mentirais pas. Il y avait la tête dure. Puis ma cheville qui était un peu enflée, ma part de ça, là, parce que tout le long, le bout qu'on strikait, je le kickais beaucoup. Parce que je voulais neutraliser sa main, en fait. Je voulais détruire son épaule. Je voulais pas qu'il se sente à l'aise de lancer sa main parce que je voulais qu'il ait peur constamment de si je lance ma main, il va me knocker. C'était ça le game plan. T'sais.
Yes, ça a bien été, honnêtement. Le gars, il est sorti fort. Il avait l'air de frapper comme un truck. Honnêtement, il était gros.
En fait, le build-up du fight, en fait, c'est ça qui est. C'est un training camp-là, en fait, il était fou parce qu'il a duré 3 mois de temps. Du fait que, à la base, j'étais supposé me battre pour Samouraï en octobre. Puis là, finalement, ça a été repoussé en novembre. En fait, je pense qu'au départ, c'était septembre. Puis là, ça a été poussé en octobre. Puis là, ça a été poussé en novembre. Mais moi, je m'étais blessé au genou pas longtemps avant. Mais je ne l'ai jamais dit à personne. Mais mon coach, Lévi, il travaille beaucoup avec eux. Puis tout ça, avec tout fait. Puis ça s'est su entre les branches que j'étais blessé. Mais Samouraï ne m'a pas contacté. Ils m'ont juste considéré out. Mais moi, j'étais au-dessus d'un mois du combat. Puis là, j'ai crié à Daniel, je suis comme, qu'est-ce qui se passe avec mon adversaire? Il dit, comme, de quoi ton adversaire? Comme, t'es pas blessé, toi? Je suis comme, oui, mais c'est pas ton problème à toi, ça c'est le mien. Fait que c'est comme, si je t'ai pas dit que je suis out, je suis pas out. T'sais. J'ai une grosse équipe derrière moi. Je travaille beaucoup avec Viviane, tout ça, toute la gang du Centre Replay qui sont juste incroyables. C'est justement Viviane, celle qui a reconstruit mon genou, qui m'a aidé à ma rehab pour quand je me suis fait opérer la première fois. En fait, la seule fois. Puis, fait que c'est ça, bref. Là, je suis comme, ben oui, mais je suis pas out pour autant. Tu sais, je suis blessé au genou, je peux pas rouler, mais c'est un détail. Fait que finalement, j'ai fait ma rehab, tout ça. Fait que finalement, eux, ben, ils ont eu l'événement. En attendant, moi, je parle avec mon agent. Je dis, OK, on a eu du cas de trouver quelque chose. Il dit, oui, parfait, écoute, j'ai trouvé quelque chose à Vancouver contre Tyler Christopher. Le gars, il est invaincu. Ils ont de la misère à trouver des match-ups, tout ça. Je suis comme, OK. Parfait, moi ça me va, j'ai aucune idée c'est qui, je suis genre, let's freaking do it. T'sais, ça fait 3 ans et demi que je me suis battu, là, je suis pas à l'étape de commencer à sélectionner, je suis à l'étape d'être actif. Là. Fait que c'est un petit peu ça qui est arrivé. Fait que je pogne le fight, ok, c'est beau. Finalement, quoi, 3 semaines, un mois avant le fight, à peu près, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, ouais, finalement, Christopher, le dos, en tout cas, il est out, il est blessé pour 6 à 9 mois. Évidemment, il a dû wreck son genou 6 à 9 mois, ça ment pas, ouais, c'est un ça. Genou qui est out. Puis, fait qu'ils m'ont dit, il reste un dos là. Je suis comme, OK, parfait. Tu sais, je check un peu les trucs, tout ça. Au début, je suis comme, OK, c'est chill. Là, je me mets à écouter les fêtes, puis qu'il présente. 80,7 kilos, je suis comme, c'est plus gros que 66,
ça. Ah, t'es genre ça, c'est quoi, même?
C'est 180.
180 livres.
Le gars se battait pro en Europe. Dans le fond, lui, c'est un gars d'Irlande. Puis il se battait à 180 livres pro. Puis là, je suis comme, that's a big dude. moi, j'arrive de 135. Là. Okay. Moi, je suis comme, moi, 135, ça me fait chier, mais tu sais, je vais être le plus petit 145, c'est pas grave, tu sais. Mais t'as juste le monstre Godzilla qui débarque de 180 livres. Je suis genre, OK, man. Why not? Fait que là, alors, j'avais vu que c'était battu à 170 puis 180. Là, j'étais comme, OK, ça, on peut le faire. Le gars, il est talentueux, il est puissant, il a un bon striking. Mais, tu sais, je parlais avec mes coachs, puis comme, OK, fight IQ, je vais le battre. J'ai plus d'expérience, je comprends mieux le fight. Ma compréhension du combat, je suis pas mal certain qu'elle est meilleure que la sienne. Puis, fait que je suis comme, OK, let's go, on y va demain. Puis avant d'accepter le fight, en fait, on a exigé qu'il se fasse embarquer sa balance. Fait qu'ils l'ont filmé, embarqué sa balance pour voir qu'il était capable de faire le poids parce que même BFL n'était pas certain non plus. Ils sont comme, that's a big dude. Fait que finalement, une couple de semaines avant, ils l'ont fait embarquer sa balance. Il restait 2 semaines. Il restait 2 semaines quand ils ont fait embarquer sa balance. Puis il était à 165, genre quelque chose de même. Puis moi, à ce moment-là, j'étais à 161, 162. Je suis comme, OK, job done. let's fucking do it. Je suis comme, il est capable de faire le poids, c'est sûr. 20 livres en deux semaines, c'est aucun problème. Fait que, pour, disons, pour un fighter, mettons. Ouais. Quelqu'un de normal, c'est pas... c'est pas la diète à faire. Mais bref, fait que, ouais, fait que ça a bien aidé. Fait que finalement, c'est ça, il a réussi à faire le poids. On arrive là-bas. Je suis monté là-bas avec Lévi. On arrive à peser. Le gars, on voit qu'il est tic, là. Il est super cut. Il est creux dans la face. Puis, tu sais, la cote de poids, là, il l'a faite, là, parce que c'est un fucking tough. Là. Le gars, là, il s'est dit qu'il allait faire 145, puis il l'a fait. Il a fait 144,8, puis je lève mon chapeau parce qu'il est gros, là. Puis, il a fait le poids. Face à face, j'étais comme, OK, il est une petite affaire plus petit que moi. Il est costaud, mais genre, il est pas si gros que ça quand je le vois embarquer dans le camp. Ce gars-là, c'est le frère de l'autre.
C'est genre, c'est pas le même, ça, là.
Non, non, j'ai fait, OK, ce dude-là a bouffé le gars d'hier. C'est genre...
C'était son repas.
Vraiment. Hey, d'abord, 30 secondes, le chien est rentré, j'en viens
de ça. Oh, il n'y a aucun stress pour moi. Mais Chris, c'est vrai qu'il était gros son adversaire, les boys, ils n'avaient aucune idée. Mais si vous n'avez pas vu le combat sur UFC Fight Pass, là, vous irez voir ça, mais c'est vrai que quand l'adversaire rentrait dans la cage, là... Ouais, ouais, avec, je me rappelle Greg, on l'écoutait, là, puis on se disait, aïe, aïe, ok. Puis nous autres, il faut que je t'avoue, nous autres, on a des PTSD là, de BFL là,
ouais.
À cause du combat de Zachary Powell. Là,
c'est ça, nous autres, c'était clairement ça qu'on s'est dit. On s'est dit, ok, si je vais là, faut que je l'assassine. J'ai pas le choix, il peut avoir aucun doute. Puis mon préparateur physique, Colas, c'est comme ça qu'on a monté le fight. Il a dit, c'est pas compliqué, tu finis le fight ou tu pars. Puis c'est pour ça que je suis arrivé à faire. Je suis capable d'ouvrir la switch pendant trois rounds, puis je vais vomir entre chaque round, ça ne me dérange pas, je suis capable de le faire. Mais c'était un peu ça le game plan de. J'y donne pas une seconde pour respirer, puis genre, let's go, on y va, puis on pousse. Puis mon camp d'entraînement a été monté en fonction de faire ça aussi, tu sais.
Ouais, puis honnêtement, c'est comme. Tu sais, à la fin du combat, j'avais aucun doute que tu avais gagné. Comme j'avais aucun doute que Zach avait gagné, là, mais Zach, l'affaire qui l'a tué, puis tu sais, c'est là que. Que ce que tu dis, man, c'est bien. C'est, ce qui l'a tué, Zach, là, c'est qu'il a dominé les rounds. Mais si tu checkais dans le coin, entre les rounds, il avait l'air d'être en train de jouer big, les deux bras à côté sur son coach, man. Genre, il avait l'air surfini. Mais ça, ça devrait pas compter dans le score, puisque quand les rounds commençaient, Zach gagnait clairement le combat.
Ouais. Mais
c'est le body language dans le coin de l'autre qui est là tout frais parce que tout frais parce qu'il passe genre 12 minutes sur son dos à pas faire grand-chose. Puis c'est sûr qu'il n'est pas le gars le plus fatigué. Il ne se défendait pas tant. Ça se faisait dans la cage puis il donnait des arm punch de même. Là.
C'est ça. Fait,
mais genre, j'avais peur, mais quand ils ont eu la décision avec les 18 puis tout, j'étais là. Man, t'sais, moi, je pense que les deux derniers rounds, c'est des 18. Je pense que c'est 30-25, le score, selon moi.
Ouais, mais ça paraît pas bien. Ça paraît pas bien. Mais non, mais le deuxième round, non. Pas le deuxième, mais le troisième, oui, parce qu'il n'y a pas de gars dans la fin. Le deuxième, non, parce qu'il y a eu des scrambles quand même. Il a réussi à se relever. Non, il n'a pas réussi à se relever. J'avais fini dans son dos.
Non, c'est ça. Tu finis le round dans son dos. Pis tout.
Mais ouais, quand j'avais même réussi à pogner le... D'Agenstan and Cuff un peu.
Ouais, là, exactement. Puis tout. Fait que, non, c'est ça. Je pense que, mais écoute, le score était bon. Tout était parfait, mon gars. Ouais. Retour à l'action avec une belle victoire. Puis, tu sais, c'est ça qu'on veut parce que, man, ça faisait, comme tu as dit,
trois ans.
Mon dernier combat,
c'était au centre de Vidéotron à Québec le 4 mai 2018.
Hey, c'est malade mental, ça, mon gars.
Ça fait longtemps.
C'est malade mental contre
Olivier Nadeau. Mais tu sais, ma game, après ça, j'ai eu ma chirurgie, je me suis fait reconstruire le genou, puis j'ai juste comme, tu sais, m'entraîner dur, puis vraiment beaucoup, je me suis vraiment beaucoup entraîné. En fait, pas tant m'entraîner dur. Je suis pas le gars qui s'entraîne le plus fort constamment, mais j'essaie d'être celui qui s'entraîne le plus intelligemment. Puis en fait, c'est ça que j'ai découvert beaucoup avec l'école, c'est que j'ai pas le temps de me... Je peux pas me permettre d'être juste gazard, genre scrap pendant deux jours après un training, parce que faut que je puisse avoir de l'énergie pour continuer à faire mes trucs. Fait que je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour genre maximiser mes trainings puis juste comme plus travailler technique. Je fais des trainings beaucoup avec le matin avec des gars puis tout ça, juste comme on drill. Fait que c'est vraiment ça qui fait la différence.
C'est fou, raide, pareil, que t'as pogné un combat, man, en plein début de mois de décembre, quand que le gars, il va à l'université, c'est comme drette la session d'examen, là. C'est drette dedans. Le gars, il est genre, ouais, je pense que ça le fait.
Oui, mais c'était une semaine plus tard, ça marchait pas. C'était une semaine plus tôt, ça marchait pas. C'est le seul moment que ça aurait pu marcher.
Ah, définitivement, man.
Fait que tu sais, puis j'étudie en temps plein au HEC en finance. Fait que tu sais, c'est un programme qui est super tough en partant.
Mais oui.
Fait que tu sais, c'est juste comme cool de faire genre, you know what, I can do it.
C'est ta première année à l'université, là?
Non, c'est ma deuxième, ouais.
Qui est deuxième année. Ouais.
Je t'avais le fini. Il me reste après un an, s'il te plaît.
Première en présentiel ou?
Non, à fond, j'ai fait jusqu'à. J'avais fait ma première session complète. Après ça, où on a fait un an. Ouais, un an à distance. Un an et demi, même à distance. Ouais.
C'était comment ça? Parce que moi, personnellement, de ce que je me rappelle, tu sais, moi, j'étais allé à Concordia, j'ai un bac en sociologie, puis ouais. J'avais, tu sais, quand même beaucoup de cours plus libres là, que je pouvais un peu choisir ce que je voulais, puis tout. Puis je te dirais que ces cours-là, je les ai plus faits en fonction de mon horaire, en fonction de mes intérêts. Puis c'est soit que je me pognais comme. Parce que moi, j'habite à Saint-Jean, fait que je faisais toujours l'aller-retour. Fait que c'est soit que je me pognais comme 2-3 cours dans la même journée pour descendre à Montréal pour la peine, puis revenir. Ou sinon, je me pognais des cours en ligne. Puis honnêtement, le gros, les cours en ligne. Tu sais, j'ai eu des bonnes notes pis tout, mais c'est juste...
La qualité d'enseignement, là, c'est pas...
C'est ça, pis là, tu fais ton petit cours en ligne, pis là, tu fais tes petits exercices qu'ils te demandent avec, pis là, après, t'aurais ces lectures-là à faire, pis t'es genre, hey, gros, tu penses que je vais faire ces lectures-là? Fait que c'est tellement...
Tu peux être à l'examen avec tous tes livres, tout ton matériel, t'es juste, pose-moi la question, là, genre, je pogne mon ordi, pis je la trouve, ma réponse, là. Google va me dire, c'est quoi que tu veux, là.
Non, c'est ça, exactement, fait que c'est... C'est des cours que...
Mais on n'a jamais fait ça.
Non, c'est ça.
On n'a jamais fait ça.
On n'a jamais fait ça, c'est sûr. Mais puis c'est ça, j'avais juste la misère à me motiver dans ces cours-là. Honnêtement, là, c'était dur pour moi de... Contrairement à... Puis tout, parce que je suis un gars, j'ai toujours été comme quand même bon à l'école. Fait que moi, le fait juste d'être dans une classe, d'écouter le professeur, souvent, c'est assez pour moi. J'arrive pour relire mes notes après, puis je suis en crise. Pourquoi je relirais ça? C'est moi qui les ai écrits, là, je m'en rappelle. Mais on dirait que de ne pas avoir ça dans mes cours en ligne, c'est moins motivant pour moi. Fait que je me demandais, c'est comment pour toi, comme de littéralement
faire... En fait, moi, c'est l'inverse. J'ai jamais été bon à l'école. En fait, c'est que j'ai tout le temps eu de la misère. J'ai tout le temps rushé à l'école. Puis, tu sais, je suis sorti du secondaire, puis j'ai fait, tu sais quoi, genre, ça me tente pas, genre, d'aller à l'école. J'hésitais. Je prends un an off. Au début, je voulais faire gardien de prison, en fait. Puis finalement, fil en aiguille, ça finit que je suis déménagé pour m'entraîner à Québec. Puis finalement, j'ai étudié en électricité, j'ai fait une couple de trucs, j'ai étudié, tu sais, je suis massothérapeute de formation. Mais encore une fois, à cause des blessures, j'ai fait, c'est bien cool. Sauf que si je suis blessé, je ne peux pas faire ma job. Fait que je peux pas me battre, puis en plus, je peux pas travailler. Fait que je suis doublement dans le mal. Fait que je me dis, si on me prend une job, où est-ce que je peux travailler et être blessé? Je peux me permettre d'être blessé et faire gagner ma vie pareil. Puis en fait, j'hésitais entre aller en finance et en ingénierie, qui est complètement distinct. Qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Puis finalement, dans le fond, le frère de mon ex, il était planificateur financier. Puis je suis super proche de lui. Puis maintenant, il m'a dit au bureau, viens avec moi. On va aller rencontrer des clients. Je vais te montrer c'est quoi la job. Puis genre, après ça, tu prendras la décision. Je vais être OK, cool, parfait. J'étais avec lui, rencontrer des clients. Je vais être, what? C'est ça que je veux faire dans la vie. Ça, ça me va. Ça me parle. Tu sais, j'ai toujours travaillé dans la vente, des choses comme ça. Fait que contact client, c'est quelque chose que ça me parle, si ça m'intéresse. Fait que j'ai fait OK, c'est good, ça me va. Puis de là, j'ai fait OK, je m'inscris à l'école. Mais tu sais, j'ai jamais été à l'école de ma vie. Quand je suis retourné à l'école, ça faisait quasiment 10 ans que je n'avais pas été. Là. Fait que c'était comme OK, on recommence, mais dans la grosse ligue en partant. Là.
Ouais, c'est ça. HEC en finance, pas des petits programmes non plus. Là. C'est quand même très bien. Fucking réputé en plus, man.
En fait, c'est pour ça et tout que je voulais aller là. Je me suis dit, tant qu'à ça, je suis comme dans tout, autant pour le faire dans n'importe quoi dans la vie, tu sais, mise-toi un objectif haut, puis genre graine pour l'atteindre. Puis à HEC, je savais que j'allais avoir de la misère, puis j'étais comme, you know what, toute ma vie, je me suis dit que je n'irai jamais à l'université parce que je suis trop épais. Puis finalement, je suis en train de péter des scores à HEC pareil, tu sais. Ça va super bien, tu sais, niveau scolaire, puis tout ça. Cette session-là a été plus rough, je vais l'admettre, mais tu sais, je m'en sors très bien, là,
overall. Ouais, ça me fait penser à moi un peu et tout, man. Moi, je suis rentré en sociologie. Moi, les gros, j'ai écrit ça à merde au cégep, le gros. Quand je suis arrivé au cégep, moi, on va mettre ça au début, j'ai sauté une année, OK? J'ai commencé direct en première année, j'ai pas fait ma maternelle. Je me suis crissé dehors de la maternelle parce que je savais lire. Mais ma mère est enseignante, tu sais. Fait que c'est sûr, ma mère, quand j'étais curieux, j'étais un petit enfant à la maison, j'étais curieux, je voulais apprendre à me le montrer, tu sais. Fait que j'ai comme appris à lire, à écrire un peu avant d'aller à l'école. Fait que quand je suis arrivé en maternelle, elle était genre big. On te fera pas découper toute l'année, mon gars, là, ça va t'abrutir que le syncoliste. Fait qu'il m'a envoyé en première année. Fait que là, ça fait que j'ai toujours été j'aurais été le plus vieux dans ma classe. Parce que dans le fond, moi, ouais. je suis du mois de décembre. Là, c'était ouais. ma fête cette semaine, en fait. Fait que je serais le plus vieux dans la classe, mais le fait que j'avais sauté une année, je tombais automatiquement le plus jeune dans la classe, mais le plus ouais. jeune de beaucoup. Là.
Ouais, c'est ça, de un an et quelques, genre.
T'sais. Ouais, fait que là, tout mon secondaire, tout, j'étais le plus jeune. Mais j'étais dans un programme de langue et de sport-études, mais programme langue, dans le fond. Okay. Fait que, au lieu d'aller faire du sport l'après-midi, on faisait des projets en anglais, en espagnol, tourner des petits films, là, des affaires super okay, le fun. Cool, nous apprenait les deux langues le plus possible. Fait que là, après, j'étais allé au cégep. Puis là, quand j'étais allé au cégep, mon gars, j'ai commencé à chiller, OK? Puis je me suis commencé à m'en colisser un peu. Puis ça a été un petit cave, là, qui va faire de la pilule la fin de semaine, des parties. Puis, tu sais, un peu faut de la
merde. La triper bien fort.
Exactement. Chose que je n'ai pas faite de toute. Tu sais, moi, tous mes amis ont fait ça au secondaire. Puis là, ouais. rasé au cégep, ils vieillissent un peu. Moi, je suis le petit jeune qui n'a pas fait ça du secondaire. J'ai jamais fumé rien. Puis là, au cégep, je commence. Fait que. Moi, c'est là que mes notes ont comme été droppées. J'avais comme 75% de moyenne générale à peu près.
Ouais, ouais.
Ce qui n'est pas normal pour moi, parce qu'au secondaire, j'avais des 90 dans toutes les
poches. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Fait que là, quand est venu le temps d'aller à l'université, j'hésitais. Soit je voulais aller en comptabilité pour administrer un business à mon père, okay. ou je voulais aller en journaliste communication, parce que c'était pas mal.
T'es allé plus en journalisme, I guess.
Puis, honnêtement, les deux, c'était assez contingenté parce que j'allais à Concordia. Concordia, pour les finances, c'est John Molson ouais, School of Business.
C'est top aussi, là, c'est vraiment
exactement.
Top,
fait que, tu sais, il fallait quand même des bonnes notes pour rentrer là, même affaire pour le journalisme. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais aller en sociologie. Mais, tu sais, c'est une science humaine, c'est vraiment facile. Mes examens, c'est genre, voici une question large, réponds-moi en trois pages. Je dis, OK, il faut que j'écrive des mots, c'est pas mal ma spécialité, ça. Fait que, puis gros, finalement, je me suis jamais décidé ce que je préférais entre les deux. Fait que j'ai eu le temps de finir le programme. Puis là, j'ai un bac en sociologie. Puis je suis pas encore retourné. Puis j'aimerais ça y aller en journalisme. Mais d'un autre côté, mes affaires, ça commence à.
Je pensais que tu l'avais fait, en fait, parce que je sais que t'es évidemment clairement passionné par le journalisme, surtout au niveau sportif, tout ça, tu sais. Je m'attendais. En fait, je pensais que t'avais déjà fait ça.
C'était ça le plan, mais je pense pas que j'avais des assez bonnes.
Mais en même temps, de façon très honnête, est-ce que aujourd'hui, ça t'apporterait quelque chose d'aller faire le cours?
Je le sais pas. Je pense que oui, au point de vue de. Tu sais, si je voulais me trouver une job là-dedans, puis plus avoir. Parce que là, je travaille de nuit à l'hôtel à Venise. Fait que, ouais. Tu sais, j'ai un autre job pour payer mes affaires, puis. Sacrément, c'est quoi quand ça je m'étouffe de même? Mais j'ai la page tout avec mes commentaires au samouraï, j'ai eu un commanditaire le mois dernier. Fait que tu sais, je commence à faire de l'argent avec ça, mais c'est des quantités minimes d'argent que.
Oui, oui, absolument. Mais c'est
jamais je pourrais vivre avec ça. Mais d'un autre côté, c'est la première fois.
C'est des petits trucs comme ça, des petits commanditaires qui font la différence. Puis les gens ne comprennent pas à quel point que ça change la vie de quelqu'un.
Ça change tout, man.
C'est ça, je donne un exemple. J'ai des amis, mes parents, la semaine passée, juste avant que je parte, ils m'écrivent, puis genre, juste random, sont genre, hey, on peut pas remettre commandité, mais on peut t'aider finalement, tu sais, genre, ils m'ont transféré un peu d'argent juste pour m'aider, puis juste pour m'encourager, puis c'est comme, tu comprends pas à quel point tu changes ma vie, tu m'envoies 50$, moi, ça change tout, là. Tu sais, c'est comme, c'est juste par principe, tu sais, c'est un petit montant qui n'a pas fait une grosse différence nécessairement pour eux, tu sais, c'est des gens aisés qui sont en retraite, comme, pas ça qui fait la différence. Mais pour moi, en cas d'entraînement, où je calcule tous mes trucs, je fais comme, OK, cool, je vais être capable de me payer ça avec. OK, je vais être, tu sais, comme, tout est calculé, là. Fait que c'est comme, ah, nice. Puis tu sais, après ça, les autres commentaires qui embarquent, c'est juste des petits montants de chacun qui fait la différence, tu
sais. Yep, mais tu sais, c'est ça et tout de mon bord un peu. C'est que, tu sais, je me dis, oui, j'aimerais ça, tu sais, y aller à l'université, faire mon cours en journalisme, puis tout. Puis ça m'aiderait peut-être à me trouver un job là-dedans, que je pourrais ne plus faire mon autre job. Puis ça serait cool. Mais d'un autre côté, mettons que demain matin, je vais faire ça, puis là, je lâche ma job, puis là, je vais travailler à RDS. C'est exemple. Ouais. Est-ce qu'à RDS, je vais encore vraiment avoir la liberté de continuer ce que je fais maintenant, qui est ma page? Que c'est comme j'ai l'impression, pour la première fois depuis 5 ans, que je suis comme en train de bâtir de quoi pour vrai avec ça.
Moi, je pense en fait que c'est l'inverse qui va arriver dans ton cas. Il y a plus c'est de chances que tu te fasses poter par RDS à cause de ça.
Exact, que
et non, d'aller faire mon cours après RDS, en fait, RDS, laisse-les te courir après, c'est là que ça va marcher, puis t'es en train de te monter genre un following, un certain fanbase, tout ça, tu sais, comme là, tu t'es plugué avec Samouraï, tu te vois, tu sais, je sais que tu fais plus la section anglais, Mais tu sais, au final, t'es la table à côté, là.
Oh, et puis gros, c'est ça.
Tu comprends? C'est un exemple. Lévi ne peut pas être là un soir, il est malade. Hey, ça nous prend un gars. Mets tes fesses ici, mon homme, on est parti. Là, c'est ça qui va arriver. Là.
Non, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression que peut-être que maintenant, je suis en train de mieux me placer que si j'allais faire mon cours en journalisme. Fait que ça va toujours être ça, le dilemme. Mais tu sais, ben, on verra bien dans 5 ans, 17, quelle était la bonne chose à faire, là, rendu là. Je me stresse pas plus qu'il faut avec ça. T'sais, comme je l'ai dit pour la première fois, là, j'ai l'impression que ça s'en va à quelque part, tout ça. Fait que,
c'est ça.
On ride le train. Pis,
mais c'est exactement ça. C'est
Samouraï, ça a tellement aidé et tout. Tu n'as pas aidé comment ça. Ça dès qu'il y a eu l'annonce de Samouraï, les yeux qui. Parce que gros, il y a un bout pendant la pandémie. Là. Et puis ça, je sais que Facebook, YouTube, tout ça, c'est des algorithmes. Okay? Puis il y a un moment donné que. Genre, on dirait que tout le monde ne faisait que chercher des choses en lien avec la COVID, lire des choses en lien avec la COVID.
Il n'y a rien d'autre.
Que moi, il n'y a plus personne qui voyait mes publications. Là, j'avais une page avec 10 000 likes dessus, le gros, là. Puis Facebook montrait ma publication à genre 500 personnes, même pas. Parce que l'algorithme n'était pas de mon bord pendant tout. Mais, tu sais, là, ça s'est rétabli depuis, heureusement. Puis,
mais c'est ça, en fait. C'est quand il y a un boost. Utilise-le, par.
Exact. Puis là, les samouraïs, ça a tellement amené un boost de mongol, de yeux de plus dessus. Puis que j'ai des gens que justement qui m'écrivent hey, on vient de trouver ta page, c'est vraiment cool. Puis on va continuer à suivre ça. Puis il y a vraiment nice. Du monde qui découvre que genre, hey, il y a un dude au Québec qui fait un podcast avec le monde d'ici. Puis
c'est fait, ça, c'est le fait qu'en même temps, ça donne la chance, qu'est-ce que tu sais, de faire connaître les fighters ici. T'sais, nous, ça nous donne un exposure. C'est juste bon pour tout, en fait. C'est juste. En même temps, ça donne la chance au public de connaître le autant comme toi en tant que pour l'entrevue, mais aussi comme connaître les athlètes, les athlètes d'ici, qu'est-ce qu'ils font, c'est qui la personne, parce que le personnage, on s'entend qu'il se bat dans la cage, c'est pas nécessairement la même personne dans la vie de tous les jours. Si on prend Strania, exemple, qui est le meilleur exemple, le plus grand personnage, je suis pas convaincu qu'il est aussi wild dans la vie de tous les jours nécessairement, tu sais.
Non, c'est pas à tous les jours qu'il est chez eux à crier à douleur, tabardac, que tu la
douleur. Ouais, c'est ça, exactement.
Tabardac, mais.
Mais tu sais, c'est ça, exactement ça. Puis tu sais, je pense qu'on a tout un peu notre côté. Surtout, tu sais, on s'entend, c'est un sport tough, là. Mais tu sais, ça donne la chance en même temps de connaître les fighters, puis en même temps de faire comme. Peut-être qu'en entrevue, tu vas faire écoute, ce gars-là. Comment il s'exprime ou quoi que ce soit, ça rejoint nous, notre façon de penser, on veut l'encourager. C'est toutes des belles possibilités. T'sais.
Ouais, ben c'est ça que je trouve vraiment cool. J'ai mon boy tout, Max Carabine, là, qui a commencé à faire ça, mais vraiment plus. Lui, fait quoi de vraiment spécifiquement, genre une entrevue qui va te recevoir, puis il veut pas savoir ce que tu vas faire à ton prochain combat, puis c'est quoi ton game plan. Lui, il veut juste vraiment savoir chip au ketchup ou chip au vinaigre. T'aimes-tu mieux 300 ou les gladiateurs? Ça, je trouve ça cool, je trouve ça important parce que c'est souvent de même que le monde va relate. Parce que moi, je veux pas à cause que. Tu sais, je m'entraîne, puis je chill dans le gym, puis tout. Vous autres, je vous vois comme du monde, genre, bien normal que votre métier, c'est d'aller vous péter la gueule dans une cage. Puis oui, ouais, ça, c'est extraordinaire, exact. Mais au final, votre vie de tous les jours est anodine, un peu comme la nôtre, des fois. Sauf que vous autres, votre travail, c'est d'aller au gym, puis entraîner vos techniques
dans différents zones martiaux. C'est quoi ta job? Ben, d'aller au gym, apprendre à briser des membres, stranguler des gens, puis créer des commotions.
C'est cool que les gens ils puissent vous voir sur un autre angle. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui regardent ça et disent, les combattants dans la cage, puis ils pensent que vous êtes juste genre une strate à part de la société, genre de du monde pas normal un peu.
Exact.
Dans tous les sens. Puis c'est hâte de voir que tu sais, t'as comme toi ou comme Tommy Morrison, est-ce des gars bien normal, ça va à l'école, mon gars, comme tout le monde. T'en as, comme tu dis, des spéciales comme Strania puis d'autres. Mais t'en as.
Ça en prend du plus normal que. Couleur, puis genre,
ouais, c'est ça.
C'est bon. Honnêtement, c'est bon. C'est ça qui fait qu'il est drôle. C'est qu'on est capable de tout arriver, tout le monde ensemble. On a tous des passés différents. On met tout ça ensemble. Puis ça crée quelque chose de cool. Puis on va tous se respecter parce qu'on a tous une passion ensemble. Même si on a tous des tempéraments différents, il y a quand même un respect qui va être entre chaque, ce qui est vraiment cool. T'sais. Allez, donne-moi une ration. Là, le chien, c'est rentré pour vrai.
Yes, ouais, pas de stress, mon gars.
Oh, yeah.
C'est un chien nordique, pareil. Hein? C'est un petit bout qui est dehors.
Ouais, c'était un husky. Oh, c'était un husky lab.
Ouais, sacrément. Okay. Moi, j'ai un pug, man. Je peux te dire que quand il neige de même, des fois, il ne descend même pas les escaliers du perron. Là, il nous pisse ça direct sur le patio en nous check-up. Ben là, on dit, par qui il va en bas? Puis genre, avec la patte dans les airs, genre, non.
Il essaie de pisser en bas, mais il veut pas se rendre en bas.
Genre ça. Oh là, il est genre, moi, je reste ici, là, puis je pisse là, puis je rentre au PC.
Non, c'est ça. Puis tu sais, nous autres, en plus, on a une bonne cour, là, on a quand même un bon terrain. Tu sais, t'es clôturé, fait qu'on laisse le chien lousse, puis c'est quand même cool pour ça, là. Puis en fait, c'est que ce chien-là, c'est un rescue. C'est le chien à ma blonde, là, à base. C'est ça, dans le fond, c'est un organisme. Eux vont chercher des chiens dans le nord du Québec. Puis elle a récupéré le chien il y a 3 ans, genre hier en plus. Puis c'est ça, dans le fond, les chiens là-bas sont lousses. Là. C'est des chiens errants, puis les autres, ils l'ont ramassé de même. Mais tu sais, ça fait que le chien a des problèmes. T'sais, au début, il y avait des problèmes de comportement parce que, tu sais, c'est un scavenger, là, il fait juste manger n'importe quoi, puis il n'a jamais eu d'éducation, il n'a pas eu rien. T'sais. Fait qu'ils ont fait un travail incroyable pour vrai avec. Là. Puis, mais là, le seul problème qu'il y a, exemple, c'est ses pattes. Il y a des pattes d'un chien genre de 14 ans. Là, fait que aussitôt qu'il touche du sel dehors ou qu'il est trop longtemps dehors, il se met à geler des pattes puis il a mal. Autant l'été que l'hiver, des fois, il chauffe les coussins. Les coussinets là, sont finis. Là. Finis. Là. Il y a des coussinets d'un chien de 13 ans. Là. Mais il y en a trop. C'est juste ouais, ça. Mais tu sais, comportementalement, c'est une grosse guidonne. Là. Il est juste trop fou. Là. C'est un escape artist, par exemple. Laisse-les pas 30 secondes sans surveillance. tu le sais s'il y a des phares dans ta clôture ou pas. Tu le laisses aller. C'est fini, tu le sais.
C'est nice. Ah, moi, toujours un rescue, c'est un bug, là. Mais yeah. C'est une madame, man. Je sais pas trop comment on l'a trouvé. Mais elle a une page Facebook, ça s'appelle Pug Québec. Pis...
OK.
Elle, à chaque fois qu'il y a des petits pugs qui. Tu sais, que leur famille, ils ne peuvent plus s'occuper d'eux ou nanana, elle les ramasse. Puis elle en a comme. Déjà, à elle, elle en a 5-6. Fait qu'elle se retrouve. Tu sais, là, elle habitait. C'était drôle parce qu'elle habitait à Pointe-aux-Trembles d'une maison de ville avant, man. Genre, drôle de crise de spot. Mais là, elle a déménagé. Elle habite genre à Shawinigan, dans le bois. Fait
qu'elle a de l'espace au moins à ce
temps. Ouais, elle a de la place. Elle s'est fait tout un beau setup. Puis. Elle en a toujours comme une quinzaine, là, mais elle et tout, là, c'est fou comment qu'elle en a de, t'sais, des chiens d'usine à chiots, là, qui savent, genre des femelles, littéralement, qui ont vécu leur vie dans une cage, là, puis ils sortaient à la femelle, là, pour te le lancer, puis t'as recollé celle-là, puis elle servait rien qu'à faire des bébés, puis tout. Fait.
Ça, man, c'est honnêtement, là.
Alors, moi, tout, j'ai ça, ça me fait, tu sais, parce, genre, des, je sais pas pourquoi, tu sais, des huskies, des plus gros chiens, tu sais, des fois. Et comme il arrive des affaires fucked up, mais t'es genre, ah, c'est un gros chien, il est capable d'en prendre, puis c'est pas correct, là. Mais le
non,
monde
c'est ça, mais je comprends ce que tu veux dire.
Le monde se dit ça pareil.
Un petit crise de pug, même. Justement, qu'un chien de même, parce que s'il y a un trouble comportemental, les conséquences sont pas les mêmes. Une morsure d'un chien comme ça de 80 livres qui te ramasse un bras, c'est pas en même morceau que t'as un pug, tu sais.
Non, c'est ça. Moi, des fois, ça y arrive qu'il accote ses dents, tu sais, quand il donne une gâterie, puis il saute pour la gâterie, puis il nous mord le bout de doigt sans faire exprès, ça fait pas mal. Ça pas mal parlé.
Non, c'est ça.
C'est fucké. Moi, la seule affaire qu'il y a, il y a deux petites affaires. Une, c'est dans le fond, les gens avant, je pense, s'occupaient moyen de lui. Là. Fait qu'il y a les ongles comme très, très longs.
Mm.
Puis tu sais, les ongles, ils ont une veine là-dedans.
Ouais, mais tu peux pas vraiment les couper parce que la veine, elle continue de pousser, dans le fond.
Exactement. Puis sa veine est assez longue que même quand on les coupe, ses griffes restent quand même longues parce qu'ils n'ont pas été bien entretenus. Là.
Ouais,
ça, c'est une petite affaire. Okay. L'autre affaire, c'est qu'il fait de l'anxiété de séparation à côté. Là. Dès qu'il y en a dès qu'il y en a un qui s'en va, il pète une crise là, comme si on n'allait jamais revenir.
Quand on part à l'extérieur, un peu, exemple, c'est comme moi, ma famille est à Rimouski. Fait que des fois, avec ma blonde, on fait comme moi, on descend à Rimouski, on commence à pacter des valises. Il est pas content. Il vient tout le temps avec nous autres. Là. On va se tourner, il va avoir la face dans la valise, il va être en train de sortir du stock de la valise. Puis,
genre, non.
À un moment donné, on a fait pareil, il est juste couché sa valise. Il est genre, tu sais que tu t'en vas pas sans moi, hein, ou il va se foutre dans l'entrée, ouais. Genre, il n'y a personne qui sort ici. Là.
Non, mais c'est malade. C'est, surtout, tu sais, moi, je pense, honnêtement, pas que je vais avoir d'autres choses que des rescues un jour parce que, big, il y en a tellement, exact. De toutes les races à aucun.
Qui ont besoin, exactement.
C'est ça, tu sais. Puis, gros, c'est tellement les meilleurs, tu sais, quand c'est le meilleur ami de l'homme, ce chien-là, man, il creverait pour tout demain matin.
Ah,
tu sais, il y a personne qui aime plus que toi et ta blonde sur la terre, man.
Non, je te dis, puis comme n'importe qui ici te rentre, ma blonde a crié. Man, c'est qui, man?
C'est le danger, lui, c'est rendu un loup-garou, puis il veut infliger la douleur, là.
Oh, c'est exactement ça! Mais là, on aurait un bon match-up là, pour Strania. Là. Strania contre le chien.
Contre le chien, man. Attention, ça pourrait mal virer.
Lugaru contre le husky.
Mais tu sais, c'est tout ça pour dire qu'il y a tellement de petits chiens qui ont besoin de juste d'avoir des propriétaires qui les aiment et qui s'occupent d'eux. Que c'est ça. Je pense pas qu'un jour je pourrais avoir d'autres choses que ça. Puis...
Non, mais c'est vraiment, on checkait ça parce qu'on tripe gros sur les Australian Shepherd. Puis tu sais, c'est des chiens incroyables. Tout ça, ils sont vraiment nice, super intelligents. Ouais, c'est malade, mais tu sais, si t'en veux un, il faut que tu passes par un élevage. T'as pas le choix. Parce que dans les rescues, il y en a juste pas. Parce que c'est des chiens qui valent quand même assez cher, fait que le monde va les vendre quand ils sont écœurés et vont faire de l'argent avec au pire. Oui. Fait que c'est vraiment dur à avoir un rescue. Fait que tu sais, comme prise de conscience, tu fais comme ah, on aimerait ça en avoir un, on est comme mais en même temps, il y a tellement de chiens qui ont besoin d'être rescue. Puis honnêtement, tu sais, les deux, on est comme vraiment des. On aime juste trop les chiens, là. Fait qu'on est plus pour le rescue qu'autre chose, là. Mais on va voir.
Bon. Yep. Bon, non, c'est ça, c'est clair. Anyway, man, il n'y a rien qui t'empêche de t'en pogner un sur le site et d'avoir un rescue pareil. Là.
C'est ça. Mais tu sais, avoir 4 chiens maintenant, ça fait beaucoup.
Oui, mais... non, c'est sûr. Surtout si c'est des gros chiens de même, là, quand ça se bat pour être ça, proche de toi dans le lit.
Le prochain risque d'être plus petit, honnêtement. Là, le prochain risque d'être plus petit. Là. En même temps, c'est juste d'avoir un chien plus gros que 80 livres dès le départ. Là.
Non, c'est ça, c'est gigantesque, man. Jeremy Chum s'est acheté un bull massif ou quoi de même. Le chien n'a même pas un nez, bon, il a 120 livres, man.
Mon boss, c'est un de même.
Le chien me fait peur, là, straight up.
Non, mais c'est ça. Puis mon boss, il donne pas des cognes. Il donne ses vieux tailleurs de char à son chien.
C'est ça, ça
creuse. Bien, il bouffe un tailleur de char. Il dit, il va gruger là-dessus pendant un mois. Il va me défaire le tailleur en morceaux et en lambeaux. Puis au bout d'un mois ou deux, j'en donne un autre set de tailleurs. Let's go.
Hey, c'est malade, man. Gros, avant, je te laisse aller. C'est quoi tes plans pour le futur? Là? Est-ce que First BFL, c'est un one-fight deal? C'est un plusieurs
fights? Moi, j'ai un one-fight deal avec eux autres. Okay. Je te mentirais pas qu'ils veulent que je remonte au PC. À la base, en fait, ils m'avaient proposé, si je battais le premier adversaire, dans mon contrat, j'avais une option de title shot. Honnêtement, je trouve ça cool. Ça me tente pas d'être champ tout de suite. J'ai trop de travail à faire sur ma game. Je me vois pas avec 4 combats être champion d'une organisation au Canada. J'ai du travail à faire. Je file pas pour avoir une target sur moi. Pas pour tout de suite. J'ai vraiment, comme je dis, j'ai vraiment trop de travail à faire. En même temps, il y a Samurai, tu sais, que j'ai un contrat avec eux aussi. Fait que, tu sais, ils m'ont laissé aller me battre le boss, c'est vraiment cool. Là, faut que je regarde. Là, le deal et tout, c'est que je me suis dit que je prenais pas de fight avant le mois de mars. T'sais, avec la session que j'ai eue d'école, avec l'entraînement à temps plein, là, c'est le temps que je donne du temps à ma blonde plus qu'autre chose. Là. Fait que je vais prendre ça plus relax un peu, m'entraîner jusqu'à jouer. Puis c'est ça. Mais là, le game plan, c'est pas de fight, rien avant le mois de mars. Après ça, je verrai. Mais définitivement, soit avec Samurai ou avec BFL ou n'importe où ailleurs, honnêtement. BFL, j'ai trippé sur l'expérience, c'était vraiment cool. J'étais quand même bien payé, je l'admets, c'était pas si mal. Fait que, reste à voir. C'est sûr que je me vois pas signer un contrat de 3-4 combats avec eux. T'sais, c'est allé au bout du pays. Puis, il faudrait que je sois hyper, vraiment super actif. Avec l'école, je peux pas garantir que je vais être actif autant que ça. Fait que c'est toutes des choses à voir. Je vais y aller avec les opportunités de match-up, les opportunités de tout, en fait. Qu'est-ce qui peut être bon, un, pour ma carrière, mais, tu sais, comme pour le sport, qu'est-ce qui tombe bien. T'sais, con, avec l'école, je peux pas me battre n'importe quelle fin de semaine. T'sais, je peux. Tu sais, avec les examens, OK, là, je peux, là, je peux pas, là, je peux, là, je peux pas. Fait que c'est vraiment difficile pour moi de trouver un match-up. Tu sais, avec mon agence de management, ESS Fight, les gars me trouvent des fights à toutes les fins de semaine quasiment. Là. Je pourrais me battre non-stop. Là. Tu sais, cette année, j'ai dû refuser 50 fights. Là. Tu sais, Jérémy est hyper actif, puis il essaie de trouver des... OK, les gars, on a une organisation, telle place aux États, telle place, il y a toujours quelque chose. Fait que les gars font vraiment un travail de fou, là. Mais ouais, je te dirais qu'aussitôt que je vais être capable, je pense que Samurai font une carte en février. Fait que peut-être pas celle-là, mais de ce que j'ai entendu, ils veulent en faire une à Québec quelque part en avril ou peut-être plus juin. Fait que clairement, je serais down pour être là. Tu sais, je me suis entraîné longtemps à Québec, fait que j'ai pas mal de monde. Puis tu sais, je suis de Rimouski, fait que la dernière fois, je me suis battu. Il y a beaucoup de monde de Rimouski, en fait, qui est monté. Là. Tu sais, la dernière fois, je me suis battu, j'avais vendu 100 billets, puis sur 100 billets, il doit y en avoir 60 qui venaient de Rimouski. Là. Fait que c'est quand même cool. Là. Fait que, ouais, ça serait pas mal ça, je te dirais, là, dans les prochains temps pour l'instant.
Excellent, mon gars. Ben, Chris, merci beaucoup, mon Max.
Puis on fait plaisir. Anytime.
For sure, man. C'est super le fun en plus. Si t'as de la jasette puis tout, ça, c'est tout le temps.
Personne cool. Me dire j'ai une grand gueule, ça.
Non, mais gros, c'est parce honnêtement, des fois, il y a des entrevues qu'après 10 minutes, je suis hey, gros, j'aimerais ça qu'on fasse plus long, mais j'ai fait le tour, puis tu me réponds en une phrase, puis j'ai rien d'autre à te dire. Fait que,
ouais, chose. C'est ça.
Mais toi, gros, moindrement qu'on commence à jaser, puis on se met à parler de chien, puis d'école.
Ah, mais
tu sais que la discussion exactement. Était bonne. Là.
C'est ça, puis tu sais, je pense un peu le fait que j'ai touché à plein de choses dans la vie, tu sais, j'ai pas juste comme. Un truc, j'ai vécu des choses dans la vie, ça fait en sorte que j'ai de la jasette, j'ai vécu autre chose, puis comme n'importe quel sujet, je suis capable de. Je vais comprendre le sujet, je vais être capable d'élaborer avec toi là-dessus, puis on peut jaser. C'est quand même cool. Là.
Yep, ben c'est ça qui rend ça cool, man.
Et n'importe quand tu veux, on s'en fait une petite entrevue sur le site, n'importe quand tu as le goût de jaser, appelle-moi.
For sure, mon gars, on se tient au courant, man.
Vendu.
Merci beaucoup.
Si tu passes à Montréal, passe au TriStar, viens rouler, puis ça serait cool.
Ouais, for sure, je suis dû pour venir au TriStar. Ça fait fucking longtemps que je parlais là. Fait
ouais, pour vrai, il est bien roulé. Puis tout ça, là, un moment donné, ça serait cool. On roule tout ensemble, on chill. Puis ce serait nice. Check ça.
Parfait, man. Ben, on se textera pour se tenir au courant. Ouais, quand t'es absolument. Là, c'est quand les cours et tout. Puis ça va me faire plaisir, mon gars.
Vendu. Hey, on s'en parle.
Yes, sir. Thank you, Max.
Non, merci, mec. Bye.